quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire des routes dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, ce que l'invention de l'automobile a pu changer à nos routes. Après l'invention des godillots dont Antoine Devac nous a parlé lundi, l'invention du guide de voyage au 19e siècle qui était le sujet du documentaire de Christelle de Polotec et Anne Fleury mardi, vous pouvez d'ailleurs réécouter toutes ces émissions sur le site internet de France Culture, nous allons ce matin avec Christelle de Polotec qui a préparé cette semaine avec nous, nous attacher à l'invention de l'automobile. Qu'a-t-elle changé à nos routes? Comment cette révolution automobile a-t-elle eu une influence sur le paysage et sur les usages des routes? C'est ce que nous verrons avec nos deux invités. Mathieu Flonneau, il est maître de conférence à Paris 1, il est spécialiste de l'histoire de l'automobilisme et de la mobilité et il sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Strasbourg et nous aurons à Paris avec nous Emmanuel Pia, il est responsable histoire et patrimoine à l'Automobile Club de France. Mais tout de suite, notre feuilleton hebdomadaire, nous sommes jeudi, le feuilleton qui porte sur la fabrique de l'histoire scolaire préparée par Séverine Niattard.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Des dates, c'est un pire, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Des dates, c'est un pire, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Sylvain Boulouk enseigne au lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison. Avec ses premières, il participe au projet européen Convoi 77, qui a pour ambition de reconstituer l'histoire des déportés du dernier convoi de Drancy vers Auschwitz le 31 juillet 1944.
Tout le monde est là, ou...
Organisés en petits groupes, les élèves travaillent pour écrire la biographie d'un enfant disparu.
J'arrive, une seconde. Oui.
Si on n'a pas de photo de la personne qu'on a prise, c'est Monique Hochberg.
Vous avez des parents?
Oui, on a tous, sauf elle.
Les frères et sœurs.
C'est pas grave si elle, on n'a pas de photo d'elle.
Non, on n'a pas de photo d'elle. Alors, enfin, en fait, on en a là, dans les différents documents, elle est en photo. Mais il va falloir faire une étude après un peu plus poussée pour voir qui est Monique par rapport au visage des parents et aux autres enfants qu'on va reconnaître.
Ah, d'accord, ça va être carrément une investigation.
On va faire une phase d'investigation donc pour essayer de mettre un nom. Enfin,
déjà, on peut barrer tous les garçons. Je suppose que Monique, c'est pas un garçon. Enfin bon.
Oui, d'accord, c'est bien. C'est comme ça qu'on procède dans les
exactement,
enquêtes de police.
Bah merci, voilà.
Les enquêtes d'histoire, c'est la même chose.
Exactement. Ça enlève déjà la moitié des gens, c'est bien. Ok, d'accord.
Pensez à utiliser les autres documents que vous avez hein, pour avoir un certain nombre d'informations.
Mais c'est pas eux, c'est très...
Si, eux, c'est les Hochberg. Lui, c'est... Comment il s'appelle? Henri. Et lui, on ne sait pas comment il s'appelle, par contre. Lui, c'est le petit et lui, c'est le grand.
Alors, j'ai les prénoms, là.
Là, vous travaillez à partir des photos, c'est ça? Ou à partir des listes
On a trouvé le nom de Monique dans une liste. On
l'a trouvé une seule fois, par contre, sur une liste comme ça, on l'a trouvé une seule fois. Et
elle
est dans...
s'appelle Monique
Hochberg.
Ses parents, ils ont été déportés... Non, son père, il est mort en 43 à Auschwitz, donc c'est qu'il a été déporté avant elle, vu qu'elle a été déportée en 44. Bah non,
en 44. Elle
est née en 41. Ses frères, ils étaient dans le convoi 77 aussi. Henri et Jacques.
Jacques, lui, c'est Jacques.
Mais alors, c'est qui le...
C'est qui le grand qui
fait ? Mais c'est pas de la même famille, alors. Si, si.
Jacques Hochberg.
Bah, c'est lui.
Non, mais il n'a pas grandi de 15 ans en une demi-année, quoi.
Mais si, parce que ça se trouve, la photo, elle date d'il y a longtemps, cette photo-là.
Ah, bah oui,
quand il était petit. Ici, il est né en. Alors, Jacques, il est né en 25 et Henri en 32.
Donc, il est quand même 25, il a presque une vingtaine d'années.
Oui, c'est lui plus grand.
Ouais. Et là, c'est la famille.
Est-ce que eux deux, est-ce qu'ils se ressemblent un peu?
Bah oui, bah, il est un même fleur de chemin.
Bon, on va dire que c'est les mêmes personnes.
Mais c'est les mêmes personnes.
Ok, donc lui, c'est Jacques et lui, c'est Henri.
Oui.
Et elle a que deux frères.
Oui.
Ah oui, bah oui, du coup.
Ah, on sait que c'était trois personnes différentes.
Et vous savez déjà d'où ils partent? Donc ils partent de Drancy, mais avant, est-ce que vous savez où ils étaient?
Elle, elle habitait à Neuilly avec ses parents.
Ouais, mais ses parents, ils étaient déportés. Avant qu'elle, elle soit déportée.
Là, c'est l'orpheline.
C'est l'orpheline.
Donc elle était la pouponnière de Neuilly.
Oui, c'est ça, elle était la pouponnière de Neuilly.
Ouais.
Du coup, c'est parti.
C'est parti, allez, on vous laisse travailler.
Merci.
Sylvain Boulouk, vous avez préparé des dossiers pour chaque petit groupe. Alors,
je vous explique. Donc, c'est une opération en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont venus au CDJC, donc au Centre de documentation juive contemporaine, qui est rue Geoffroy-Lagnier dans les mémorials de la Shoah. Et avec eux, on a procédé au dépouillement d'un certain nombre d'archives sur microfilm qui appartenaient à l'UJIF, qui sont à New York pour les originaux et qui ont été... dont le CDJC a une copie. Donc avec eux, en fonction d'une liste de personnes qui avait été établie, on a pu avoir un certain nombre de documents venant du GIF. Ces documents, j'aurais fait un tirage pour chacun des groupes. Et dans chacun de ces documents, il y a un certain nombre d'informations qui correspondent au destin des enfants et au parcours des enfants entre le plus souvent l'arrestation des parents, donc en 42 pour la majorité d'entre eux, un premier internement à Drancy toujours en 42, leur sortie de Drancy à la fin de l'année 42, leur placement à l'UJIF juste après. Et la fin tragique, puisqu'ils seront tous arrêtés en juillet 1944 pour retransiter par Drancy avant d'être assassinés dans les camps d'extermination. À Auschwitz, puisqu'ils sont tous envoyés directement à Auschwitz. Et dans les enfants de la pouponnière de Neuilly, comme c'est des plus jeunes, pour les plus jeunes, ils doivent avoir 1 an, et pour les plus vieux, ils ont 6-7 ans. Ils seront tous assassinés, alors que certains déportés du convoi 77 ont survécu. Alors du coup, les élèves ont pu entendre, toujours au mémorial, ont pu entendre un ancien déporté du convoi 77 qui leur a expliqué les conditions d'arrestation, les conditions de déportation, ce qu'était la vie dans les camps d'extermination. Enfin, dans la partie concentrationnaire du camp d'extermination. Et en même temps, je les avais emmenés faire une visite du mémorial de la Shoah. Voilà, donc on a eu une opération en fait, qui a duré tout au long de l'année, qui a commencé donc, tout simplement par des cours sur ce qu'a été la Shoah. Ensuite, une série de cours sur le régime de Vichy, la place de la police française, enfin, tout ce qui est l'enseignement normal de la Seconde Guerre mondiale et des cours du programme en première. Donc là, c'est une classe de première ES. Dernière chose, là maintenant, pour le site Convoi 77, on est en phase de rédaction d'un certain nombre de notices pour qu'on puisse alimenter ce site Convoi 77 et qu'on donne lisible un certain nombre de parcours. Alors le tragique dans l'histoire, c'est que c'est des parcours d'enfants, donc des récits de vie qui vont être extrêmement brefs. L'intérêt qu'on peut trouver, c'est que normalement, on va pouvoir faire la généalogie, donc essayer d'inscrire ces enfants, malgré tout, dans des lignées familiales et européennes, puisque l'idée est de montrer aussi que, comme la majorité d'entre eux ont été juifs de Pologne, des confins de la Russie, d'Allemagne ou de République tchèque, donc faire en même temps une histoire européenne, des migrations européennes, et montrer qu'il y a eu des migrations juives de par l'Europe et donc d'essayer de faire quelque chose de plus collectif. Et puis peut-être que certains, on ne sait jamais, on aura suscité des vocations, continueront à travailler là-dessus.
Et vous, ça vous paraît intéressant de faire de l'histoire de cette manière-là, justement, l'histoire de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation?
C'est plus intéressant de travailler nous-mêmes, d'essayer de retracer l'histoire de certaines personnes que juste suivre le cours dans un cahier ou dans un livre.
Vous faites de la recherche, en fait.
C'est ça.
Des historiens professionnels.
C'est ça.
Voilà pour cet épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire, préparé et réalisé par Séverine Yattar, à la prise de son Eric Damaggio et à la réalisation Véronique Samouilov. Vous pouvez bien entendu le télécharger, cet épisode, séparément de l'émission du jour. Une émission du jour, bonjour Christelle de Polothèque.
Bonjour.
Consacrée donc à l'histoire de l'automobile, à la naissance même de l'automobile. Nous sommes dans une série d'émissions consacrées à l'histoire des routes dans la Fabrique de l'Histoire depuis le début de la semaine. Et nous avons choisi de nous intéresser à ce moment un peu particulier, 1880, les années 20 du XXe siècle, où l'automobile non seulement est inventée, mais se développe un peu partout dans le monde entier, et en particulier en Europe. Bonjour Mathieu Fleunot.
Bonjour, Emmanuel Laurentin.
Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Strasbourg. Et bonjour à vous, Emmanuel Pien. Vous êtes responsable histoire et patrimoine de l'Automobile Club de France, qui est une institution, pourrait-on dire, dans le paysage mondial même de l'automobile, parce que c'est le premier Automobile Club, c'est ça, Emmanuel Pien ?
Bonjour, Emmanuel Laurentin. Absolument, l'Automobile Club de France, créé en 1895, est le premier Automobile Club au monde à avoir été créé. Donc, c'est une véritable institution. Avec un grand nombre d'actions fondamentales pour l'automobile d'aujourd'hui également, puisqu'il est le fondateur du Code de la route, à titre d'exemple. Il est le fondateur des premiers laboratoires automobiles. Il est à l'origine de la Fédération internationale de l'automobile, comme on la connaît aujourd'hui, et des fameux Grands Prix de l'Automobile Club de France, qui sont finalement l'ancêtre des Grands Prix de France.
Oui, alors, c'est grâce à vous, d'une certaine façon, Mathieu Flonneau, vous travaillez, vous avez fait des documentaires pour la Fabrique de l'Histoire, et c'est en discussion que j'ai pu avoir avec vous qu'au bout du compte, j'ai compris que ce sujet était un sujet passionnant. Vous êtes historien de l'automobilisme et des mobilités, professeur, maître de conférence à Paris 1, Mathieu Flonneau, et vous insistez à chaque fois pour dire combien cette invention de l'automobile a été négligée par beaucoup d'historiens, alors qu'elle a eu un impact considérable, non seulement sur nos vies, ça on le sait, et les jours de pollution à l'ozone nous disent quelque chose de cela, mais aussi sur le paysage et sur les usages de la route, puisque cette question de la route est centrale dans notre semaine, Mathieu Flonneau.
Oui, bien sûr. C'est tout l'écosystème de la mobilité, des déplacements humains qui a été révolutionné à la fin du 19e siècle dans une séquence que vous avez caractérisée, c'est-à-dire, grosso modo, en 30 ans, tout est fait. Il y a sur les routes et puis dans les rues, effectivement, de nouvelles règles, de nouveaux habitus qui apparaissent et l'automobile est centrale. Alors, elle n'a pas été négligée en termes industriels, l'automobile. Ceci, évidemment, vous le savez bien. Mais elle a été peut-être et prête, probablement, négligée en termes d'impact social, culturel, patrimonial également, urbanistique enfin. Bref, il y a là tout cet ensemble qui constitue une culture cohérente qui, à certains égards, aujourd'hui, est pleine de contradictions, évidemment, mais aussi pleine des promesses premières, des promesses initiales de cette civilisation. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais derrière les tout premiers tours de roue de l'automobile se joue finalement une destinée globale et universelle.
Christelle Le Polotec.
Oui, ce qui est très intéressant, Emmanuel Pia, avec la création de l'Automobile Club de France, donc vous l'avez dit, en 1895, c'est la volonté de ces hommes, un très petit groupe d'hommes, d'être véritablement actifs dans la structuration du monde de l'automobile et du réseau routier, et surtout de voir comment ce réseau et les règles, finalement, de l'automobile ont été créées par un groupe privé.
Absolument, un groupe privé, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, mais un groupe privé qui a joué un rôle vraiment fondamental pour une raison bien particulière. Notre cercle a été fondé quelques années, 5 ans après la naissance de l'industrie automobile. Il était constitué parmi ses membres fondateurs des protagonistes de la chose automobile, à savoir les premiers constructeurs tels que, pour ne pas les citer, Armand Peugeot, Poincaré Levasseur, le comte de Dion à l'époque, qui est d'ailleurs la personne à l'origine de notre cercle, mais également un grand nombre d'équipementiers, de manufacturiers, d'ingénieurs.
Michelin, par exemple.
Les frères Michelin, pour ne pas les citer. Également un grand nombre de constructeurs d'automobiles électriques, pour faire le parallèle avec aujourd'hui, tels que Genazzi, Gento, etc., etc. Donc qui étaient tous membres de notre cercle. Et finalement, qui avait une vocation à titre privé de se développer. Et comme il n'existait pas de structure organisatrice de l'automobile à ses débuts, l'ACF a joué ce rôle fondamental.
Alors, il faut dire qu'en 1895, c'est un tout petit cercle. Enfin, il y a très peu d'acteurs dans cette histoire-là. C'est un cercle qui, d'ailleurs, n'est pas beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Il y a combien de fondateurs, de cofondateurs de cet Automobile Club en 1895, Emmanuel Pia?
En 1895, vraiment à ses tout débuts, le comte de Dion s'est entouré de d'amis qu'il avait rencontrés, notamment à la suite de l'organisation de la première grande course automobile, notamment le baron de Zuylen, notamment Paul Meillon, un journaliste qui a joué un rôle fondamental, notamment dans la création de périodiques spécialisés. Et donc la volonté de pouvoir jouer un rôle un rôle fondamental.
Mais et c'est quoi, au tournant du 19e et du 20e siècle, combien de personnes à l'Automobile Club?
Quelques dizaines, mais très rapidement quelques milliers. Et d'ailleurs, le comte de Dion avait a lancé un jour, très peu de temps après la fondation, cette sentence suivante. Le monde est avec nous aujourd'hui. Le mouvement à la tête duquel nous sommes sera irrésistible. Dans 5 ans, nous serons 2000 membres et il nous faudra un palais pour nous recevoir. Donc vraiment une parole totalement
précisons prophétique. Précisons que le Club a son siège place de la Concorde à côté de l'hôtel de Crillon. Alors Mathieu Flonneau, c'est une invention aristocratique. Ce sont des aristocrates pour beaucoup qui sont à l'origine de cet Automobile Club et peut-être un peu partout en Europe également, parce que l'automobile à la fin du 19e siècle est un produit rare et donc un produit cher, et que c'est un produit nouveau qu'il faut non seulement se procurer mais ensuite entretenir, ce qui coûte relativement cher, Mathieu Flonneau.
Et c'est là le premier paradoxe. Une poignée d'hommes, effectivement, issus des élites, vont en quelque sorte faire une révolution globale et universelle. Ceci très rapidement, le premier congrès international de l'automobilisme se tient à Paris en 1900 pendant l'exposition universelle. Et à ce congrès, alors que la France ne compte que 2000 véhicules, tout véhicule compris, il commence à y avoir des véhicules utilitaires à l'époque, eh bien il y a des propriétaires qui se manifestent et qui vont contribuer à édicter les premières règles de circulation. Cela a été dit tout à l'heure, ce n'est pas encore un code de la route en bonne et due forme, ce n'est pas encore validé par les pouvoirs publics, mais on sent bien que la chose publique qu'est l'automobile, c'est-à-dire la République automobile, est en voie de se construire. Et le paradoxe, je le ressouligne, comme vous l'avez fait, c'est que ce sont des aristocrates à l'origine de cela.
Oui. Christelle Le Poetec, vous avez trouvé, en préparant cette émission, le facsimilé, pourrait-on dire, du premier guide Michelin qui date de 1900. Vous voulez nous en lire un petit extrait qui va rentrer dans notre discussion?
Oui, 1900, c'est-à-dire 5 ans après donc la création de l'Automobile Club de France. Et on voit déjà des préoccupations qui sont là, loin de toutes les questions techniques qui vont être traitées dans ce guide, puisqu'il répertorie tous les dépôts d'essence, réparateurs et les hôtels. Mais également, voilà ce qu'ils disent dans l'introduction, nous indiquerons l'an prochain, dans le plus de départements possibles, les jolies routes. Nous admettons en effet qu'à l'heure actuelle, une automobile de bonne marque peut passer sur toutes les routes classées. Or, très souvent, les routes nationales sont ennuyeuses. Tandis qu'en prenant un chemin d'intérêt commun ou de grande communication, on peut faire un voyage pittoresque en allongeant, il est vrai, un peu le chemin. Nous espérons que les chauffeurs, les présidents de clubs provinciaux ou de syndicats d'intérêt local, les maires des communes qui désirent voir les étrangers venir chez eux, comprenant l'intérêt de cette innovation, voudront bien nous signaler les routes intéressantes et les routes ennuyeuses.
Oui, c'est ça, il y a de la route ennuyeuse, Mathieu Flonneau, et de la route intéressante. On a déjà une vision de ce qu'est le paysage à une vitesse plus grande, évidemment, qu'avec les chevaux et la traction hippomobile qui précédait.
Oui, et là on est vraiment au cœur de la chose, de la séduction qui n'a rien d'illusoire de l'automobile à ses débuts, c'est-à-dire que l'automobile est à proprement parler un objet sensationnel, un objet qui crée des sensations, un objet qui fait participer au paysage. Ceci a été très bien vu et d'ailleurs, je me permets de le signaler, très bien montré en ce moment à l'exposition Cartier sur autophoto, parce que précisément la capacité de capter ce paysage par la photographie devient individualisée. Ceci a été très bien montré dans des travaux qui montrent que le tourisme moderne se fonde aussi sur cette capacité d'emmener avec soi ses souvenirs. Eh bien, l'automobile décuple cette capacité.
Par exemple, avec cette question du point de vue, on va désormais pouvoir parcourir beaucoup plus de kilomètres et donc s'arrêter plusieurs fois pendant le chemin que l'on est en train de faire pour s'arrêter à des panoramas ou des points de vue qui vont être indiqués sur tous ces guides de voyage et qui sont évidemment beaucoup plus simples pour pouvoir s'y arrêter. C'est beaucoup plus simple avec une automobile que lorsqu'on est en diligence ou en calèche, c'est beaucoup plus facile.
Alors justement, si vous permettez, le premier à l'avoir écrit, ce n'est pas n'importe qui, c'est Marcel Proust. C'est-à-dire que lors de ses excursions en automobile en Normandie, je sais que les précédents documentaires traitaient de la Normandie, et bien lui-même qui était un amoureux du train, et bien Marcel Proust découvre que l'automobile lui permet de saisir ce qu'il appelle une nouvelle échelle du monde. C'est presque un instrument géométrique et mathématique qu'il voit dans l'automobile et qui lui permet d'accéder à des territoires qui lui auraient pris des journées entières, alors que là, en quelques minutes, il va d'église en église. Et c'est véritablement une sensation qu'il invente et qu'il note le premier en termes littéraires. Et donc, il est à l'origine, en quelque sorte, de ce bouquet de sensations nouvelles que l'automobile permet et offre comme séduction. C'est aussi là l'origine de la convivialité et de cette première promesse automobile qui est finalement cet humanisme universel. Et l'automobilisme est un humanisme en même temps qu'un universalisme. On peut accéder partout, en tant qu'homme, avec ses sensations, et c'est là l'invention du tourisme moderne.
Alors il y a les sensations agréables, Emmanuel Pierre, mais les sensations désagréables. On se pose de nouvelles questions, et dans les commissions qui sont créées dès le départ par l'Automobile Club de France, dont vous êtes le responsable histoire et patrimoine à notre micro, eh bien aussi des sensations désagréables. Cette route, elle est poussiéreuse, on va créer une sous-commission sur la question de la poussière, par exemple.
Alors effectivement, Emmanuel Laurentin, l'Automobile Club de France a été organisé, donc qui a joué un rôle fondamental, a été organisé, comme toute autre association en 1901, donc autour de commissions, de différentes commissions, et un certain nombre d'entre elles ont joué un rôle très important concernant l'automobile et concernant les routes. Je peux citer à titre d'exemple une commission du tourisme, une commission du contentieux, une commission des routes et de la circulation routière, une commission technique, une commission sportive. Et pour effectuer un petit parallèle concernant l'action à laquelle vous faites allusion, la commission technique a effectivement été consciente de la menace, à titre d'exemple, de la poussière. Il s'agit, les hygiénistes de l'époque, au début du XXe siècle, justement, s'offusquaient et craignaient que cette poussière véhicule des maladies. Il y a même une ligue qui a été créée pour lutter contre cette poussière, à titre d'exemple. Et l'ACF donc était force de proposition et de réflexion concernant ces questions. Notamment, son président, Monsieur Forestier, a écrit en 1904 les moyens de combattre ou d'empêcher la poussière, donc un article sur le sujet. Ou un autre acteur important, Monsieur Guglielminetti, qui a joué un rôle très important, plus particulièrement sur la Côte d'Azur, à Genève, Nice, puis à Paris, a écrit lui-même un rapport sur les moyens de combattre la poussière des routes à propos de ce sujet. Et donc, l'Automobile Club de France a réalisé un certain nombre d'actions pour allant en ce sens. Il y a notamment eu un certain Georges Lefebvre qui a recensé les différents types de chaussées pour les chaussées de route de ces troisième génération, comme l'appelle l'ISDAR aujourd'hui, à savoir, à titre d'exemple, la chaussée pavée en pierre, la chaussée en bois, en asphalte comprimé, à empierrement, à revêtement aggloméré, en utilisant des produits hydrocarbonés, également des revêtements mixtes divers, des trottoirs, des contre-allées. Donc vraiment toute une typologie particulière sur ces
questions. Qui permet donc justement à cette civilisation automobile, comme le disait tout à l'heure Mathieu Flonneau, de se développer. Christelle Le Polotec.
Oui, je suis toujours avec mon guide Michelin, je ne peux pas résister. Sur la question de la poussière, il y a des conseils, notamment il y a le collyre du chauffeur qui est fait à base de une recette de feuilles de coca, d'eau de laurier cerise et de biborate de soude.
Ouais. Mathieu Flonneau, vous parlez de système automobile qui se met en place à ce moment-là. Et ce qui est très neuf et très nouveau quand on s'y approche avec vous, c'est justement ces intérêts croisés d'un État qui ne sait pas encore très bien comment légiférer autour de ces questions-là et de ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobby, le lobby automobiliste, qui donc se structure autour des automobile clubs qui se développent, autour de toutes ces associations qui réfléchissent eux-mêmes à la législation, à la signalisation routière. Et tout à l'heure, Emmanuel Pierre nous parlait du contentieux, au contentieux qu'il peut y avoir avec les voitures hippomobiles, avec les piétons et avec les cyclistes tout nouveaux installés et défendus par le Touring Club de France.
Et c'est effectivement une superposition de lutte d'influence qui intéresse les transitions. Et donc là, l'adossement historiographique à un grand programme de recherche que vous connaissez bien, c'est-à-dire le LABEX, EHNE, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, démontre la manière dont c'est à l'échelle aussi européenne que les enjeux se trouvent posés. Car évidemment, les automobile clubs nationaux vont fleurir en Angleterre en 1897, avec un peu de retard sur la France, évidemment, qui est pionnière, en Italie, en Allemagne, à partir de 1903, où l'Allgemeine Deutscher Automobile Club, vient fédérer des automobile clubs régionaux. Et donc là, il y a aussi une supériorité française, c'est la centralisation. Mais partant de là, en France, on va organiser les premiers congrès internationaux qui vont gérer. J'ai cité celui de 1900 tout à l'heure. Mmh. Il y en a un en 1903 qui règle les questions de tourisme. Et surtout, il y a le développement. Et là, l'adossement aux États et aux politiques publiques est majeur. Au ministère des Travaux publics est essentiel. Cet adossement, c'est celui qui voit se mobiliser les ministères avec, en France en tout cas, tous les services des ponts et chaussées, y compris au niveau locaux, pour précisément établir, à partir de 1908, des règles routières. Et émerge à cette date, avec des acteurs comme le Touring Club de France, les premiers panneaux, les quatre premiers panneaux qui vont s'universaliser. Alors pour mémoire,
quels sont-ils ?
Du panneau de cassis, le cassis, c'est-à-dire un gros trou sur la chaussée, et il y en a. Il y a également le panneau qui correspond à une courbe dangereuse, et il y en a également. Il y a le panneau qui correspond à une intersection dangereuse, il y en a aussi. Et enfin, le dernier, c'est le panneau qui correspond à un endroit très accidentogène à l'époque, c'est la rencontre avec le chemin de fer, c'est-à-dire les passages à niveau. Et de ce point de vue-là, j'insiste sur une chose, c'est que la transition, elle a lieu, comme vous l'avez dit, avec le cheval, avec aussi le vélo, mais c'est aussi un moment de rivalité avec le chemin de fer. Car l'automobilisme va revivifier, en quelque sorte, les routes. Et dans une histoire longue des routes, il y a une forme de renaissance du système routier. Alors, la chose est un peu plus complexe. En réalité, les routes ont déjà considérablement augmenté leur performance, notamment du fait de la macadamisation au cours du premier 19e siècle. Mais indiscutablement, il y a un saut qualitatif qui intervient avec la généralisation de la vitesse automobile. Et là, on est obligé de lutter contre la poussière, cela a été dit, et puis aussi d'adapter tout simplement un réseau aux nouvelles capacités de déplacement.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Excusez-moi,
mais je vous en prie.
Voilà le principe du moteur à explosion. Qui fut à l'époque une vraie révolution. Une vraie révolution. Une vraie révolution. Wow, 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 wow.
Voilà, même chanson plus bifurée, a lu Mathieu Flonneau sur la révolution automobile, puisque c'est le principe de cette chanson, Le moteur à explosion, dans notre émission du jour qui traite de la question automobile et de ce que cette invention de l'automobile a pu changer à nos routes. Christelle Le Polotech.
Oui, un autre aspect que la sécurité, c'est cette question du paysage, et on voit combien l'automobile a pu façonner la route. Il y a une question qui apparemment était également traitée par ces automobilistes du début du siècle, c'était ce qu'on appelle les plantations routières. Ça, c'était un vrai débat, une vraie question.
Mathieu Flonneau.
Ben, indiscutablement, il y a le vieux rêve là des ingénieurs ponts et chaussées de rendre le paysage humain, de domestiquer à certains égards la nature et de faire des routes un grand jardin. Il y a une bonne occurrence de cela, c'est en 1936-37, avait été tentée, et elle n'a pas eu lieu en raison des difficultés sociales à l'époque, une exposition à la gloire de la route, une fête de la route. Et cette fête de la route montrait dans des dioramas qui ont, eux, existé, même si elle n'a pas été réalisée, elle était censée occuper le Grand Palais, eh bien qui montrait finalement une grande harmonie entre les routes et les paysages. Cette fusion, elle est aussi au cœur du projet des premiers autoroutiers. Il y a là l'idée de faire des routes, et ceci perdure aux États-Unis au travers des Scenic Highways, des routes panoramiques, et bien des lieux d'agrément où les aménités de la nature seraient perceptibles malgré le moteur à explosion.
Ça veut dire que les platanes que l'on condamne aujourd'hui au bord des routes parce qu'ils sont accidentogènes, comme on le dit, c'est une des inventions de cette période-là pour pouvoir justement permettre cette vision panoramique du paysage dont vous parlez, Mathieu Flonneau.
Alors, pas véritablement les routes plantées, c'est-à-dire que la légende explique que Napoléon les avait fait planter pour abriter ses armées à Londres. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'origines, mais indiscutablement aujourd'hui, une image familière de route, c'est la Nationale 7 avec ses plantations. Et de ce fait, il y a des associations aujourd'hui extrêmement sérieuses et extrêmement actives qui militent pour la défense de ces platanes ou de ces autres arbres qui sont en réalité très accidentogènes. Mais c'est une image, effectivement, qui est par derrière, qui est projetée. Mais le goût fondamental, c'est de jardiner la nature, de la rendre harmonieuse. Et parmi ces premières autoroutes, il y avait l'idée aussi d'une forme de monumentalisme somptuaire. Je pense là au phare qui n'a jamais été réalisé, qui aurait dû trôner au milieu du triangle de Reconcours de l'autoroute de l'Ouest. On n'a pas construit ce phare, mais le reste de l'autoroute a été construit.
Oui, Emmanuel Pléa, vous qui êtes donc responsable de l'histoire et du patrimoine de l'Automobile Club de France, ce qui est intéressant, c'est que les promoteurs de cet Automobile Club de France, donc né en 1895, je le rappelle, ont tout de suite pensé à collecter des archives, à faire des archives, comme si ce qu'ils étaient en train de faire était historiquement important. Vous avez la charge de ces archives, justement, de l'Automobile Club de France, et vous remarquez que dans les premières années, déjà, on collecte, on conserve, parce que c'est important.
Absolument, c'est important. L'automobile est un humanisme, l'a rappelé Mathieu Flonneau, et ça va tout à fait dans ce sens. L'Automobile Club de France, donc créé en 1895, a très tôt pris conscience, comme dirait Hegel, d'aller dans le sens de l'histoire. Autrement dit, de vraiment jouer un rôle fondamental auprès des utilisateurs, auprès des constructeurs, mais également auprès du grand public. Et notamment en 1897, vous trouvez déjà des circulaires de notre cercle et une volonté de la part de son conseil d'administration de réunir vraiment toute documentation, donc des circulaires adressés à ses membres essentiellement, mais une volonté de regrouper toute documentation, toute photographie, toute documentation commerciale et technique ayant trait à cette automobile.
Oui, mais tout de même, c'est aussi le travail d'un lobby, parce que c'est un lobby. Il y a à défendre l'automobilisme, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la section contentieux, contre ceux qui n'en veulent pas, en veulent moins, veulent lui faire une part plus congrue dans le paysage et dans la vie française, par exemple, ou dans les autres pays européens, Emmanuel Pia.
Oui, l'automobile possède des points forts, des points faibles. C'est une industrie très manichéenne au niveau de la perception, mais effectivement, il faut trouver un consensus entre ces différents éléments.
Oui, et donc justement, dans ces débats qu'il y a, il y a des procès, j'imagine, contre peut-être des fédérations de conducteurs de fiacres en ville. Il y a peut-être des procès aussi contre des piétons qui portent plainte contre les dangers de l'automobile. Enfin, j'imagine qu'il y a, dans ces premiers temps en tout cas, à régler un contentieux assez nombreux.
Il y a effectivement un réglage pour passer de l'hippomobile à l'automobile. C'est une transition qui doit s'opérer de différentes façons.
Absolument. Mathieu Flonneau ?
Oui, si vous permettez, sur ce point, effectivement, on a largement surestimé. Et ce point-là mérite véritablement un adossement historiographique solide. On a largement surestimé la naissance des faits divers automobiles. Et il y en a de nombreux. On a jeté des pierres en Bretagne sur les automobilistes parce qu'il y avait un conflit de classe également qui se superposait à cela. Il y a des textes d'Eugène Leroy dans le Périgord que je connais bien qui témoignent de cet aspect croquant qui refuse en quelque sorte la domination urbaine. Mais la force de l'automobilisme, et là c'est simplement le fait du constat, c'est que c'est un monde profondément inclusif, un monde qui va chercher des niches différentes, qui va conquérir progressivement des usages, et des historiens fameux comme Marc Bloch par exemple ont témoigné du fait que la révolution automobile, ce n'est évidemment pas simplement l'Automobile Club de France et la place de la Concorde qui l'accomplit, mais c'est la voiture du laitier, c'est le camion du boulanger dans les campagnes, et des travaux comme ceux d'Étienne Faugy ont très bien montré la manière dont c'est tout un monde qui se bouleverse de ce point de vue-là. Et sur les transitions, je voudrais quand même justifier aussi un point sur les lobbies, les influences. Aujourd'hui, la feuille de route de l'automobilisme est extrêmement technocratique. Je veux dire par là que si je suis à Strasbourg aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un grand congrès sur les technologies autonomes à venir que l'on nous promet comme organisatrice d'un futur radieux de la mobilité.
Ouais.
Or, ce que Madame
technologie autonome, ça veut dire sans conducteur. C'est ce que ça signifie.
Voilà ce qui fondamentalement percute l'origine et l'essence même de l'automobile. Et ceci, je pense que ces milieux d'affaires qui cherchent à le promouvoir, et y compris les grands constructeurs qui sont obligés, eh bien, de prendre le train en marche, là, ne perçoivent peut-être pas nécessairement la contradiction éthique qu'il y a dans la délégation de conduite absolue. Et ce point-là, j'y insiste, parce que c'est une feuille de route technocratique qui, à certains égards, referme l'automobile comme une capsule et oublie l'ouverture au paysage. Et l'un des enjeux de ce véhicule autonome, c'est évidemment la reconnaissance du regard qui peut exister entre, ne serait-ce en ville que le piéton et l'automobiliste. Le conflit n'est pas obligatoire. Il y a un art du volant, car aux côtés de ces promoteurs parfois un peu inconscients de la vitesse automobile, il y a ceux qui cherchent à la raisonner. Et c'est tout un travail de civilisation de l'automobilisme, au sens de processus de civilisation, qui a lieu dès les débuts.
Vous mobilisez et Marc Bloch et Norbert Elias. Bravo, Mathieu Flodeau, pour cette défense de l'automobilisme des premiers temps. Christelle Le Polotec.
Apparemment, Mathieu Flodeau, cette question là que vous évoquiez, en fait, finalement, la question de la sécurité routière, elle va intervenir assez tôt, dès 1912. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les voitures commencent à être de plus en plus nombreuses dans Paris, ça devient une véritable question.
Alors vous avez tout à fait raison, et là on est encore au cœur de certains paradoxes, c'est-à-dire que jamais l'automobile, instrument de liberté, n'a été laissé libre. Il y a tout de suite eu des réglementations, tout de suite
15 ans,
eu un certificat de capacité à obtenir. Non, à partir de 1893, le premier permis de circulation est exigé, et 1897, c'est l'ancêtre du permis de conduire. Donc on est vraiment dans les prodromes de ces temps-là de l'automobilisme. Et en ville, vous le soulignez, évidemment, il y a les problèmes de cohabitation qui se poseront demain avec les véhicules autonomes. Mais ces problèmes de cohabitation sont réglés de la façon suivante. C'est évidemment l'automobile qui va occuper la chaussée désormais devenue site propre pour une circulation motorisée, mais elle n'est pas la seule, il y a aussi les tramways. Et paradoxalement, là encore, les chiffres de mortalité baissent après un pic dû à l'acclimatation de l'objet technique, mais ces chiffres de mortalité baissent et on meurt beaucoup plus au tout début de la Belle Époque que 20 ans après, et a fortiori qu'aujourd'hui. Et donc il y a là une domestication de l'objet qui est indiscutable.
Oui, alors il y a tout de même parmi les usages nouveaux cette question de savoir comment on freine sur une voiture, quel temps ça prend. Il y a des tests qui sont envisagés à un moment ou à un autre. Emmanuel Pia, soit à l'Automobile Club, soit en relation avec l'Automobile Club, pour pouvoir savoir combien il faut de temps de freinage pour pouvoir arrêter un véhicule à 60 ou 80 km/h.
Oui, absolument. Cette notion de test, l'Automobile Club de France, à titre d'exemple, a créé donc le premier laboratoire et qui avait pour but, à la fois pour la motorisation et pour d'autres organes, à pouvoir justement se rendre compte, adapter l'automobile à la route. Et notamment à pouvoir tester à la fois les moteurs, les organes de freinage, etc., etc. Donc c'est effectivement un rôle nécessaire.
Oui, et sur ce point, effectivement, ça permet aussi de combattre ce que Léon Blois appelait la folie furieuse de l'automobilisme, Mathieu Flonneau.
Et celle-ci existe chez certains, effectivement. Mais ce que l'automobile prouve immédiatement, c'est sa grande supériorité par rapport au cheval pour s'arrêter. C'est-à-dire que il y a là de nombreux accidents dus à l'animal en ville qui sont, paradoxalement encore une fois, grâce à une plus grande vitesse automobile et à une élimination des concurrents sur la chaussée, bien résolus.
Enfin, élimination, faut éviter ce terme d'élimination des concurrents parce que ça peut être une élimination violente, Mathieu Flodeau.
En effet.
Que fera-t-on pendant l'été, après avoir bien hésité toute l'année? On se décide tout à coup, et l'on choisit vers le mois d'août la randonnée. Vos parents viennent vous accompagner, et vous chantent quand vous vous éloignez. Pars, ne va pas te retourner, pars, tâche de revenir. On part pour la montagne, c'est plus curieux mais plus dangereux que la campagne. L'air est pur, la route étroite, il y a un précipice à droite, à gauche des blocs de rochers. Ma femme voit le paysage et moi je vois des virages sans cesser de klaxonner. Le klaxon est un vieux brave, et quand la minute est grave, il est d'un précieux secours. Tandis que ma femme admire, moi je vire, puis je revire, et le klaxon klaxonne toujours. Soudain, barrant le chemin, voilà pas bien loin, chariot de foin. On le suit, vraiment, il va tout doucement, mais on est coincé, on ne peut pas doubler. On le suit, car sur ces petits chemins, faut de la prudence. Quand on est seul, ce n'est rien, ça va très bien.
Randonnée en auto, un titre de 1932. On pourrait croire que c'est un titre de 1912. Non, c'est un titre de 1932 signé Henri Corr dans cette émission consacrée à la naissance de l'automobile et aux nouveaux usages qui lui sont liés à propos de la route. Christelle Le Polotech.
Oui, Mathieu Flonneau, à propos de randonnée, vous dites dans un de vos articles que finalement les sorties, on le sait, hein, les automobilistes, les possesseurs d'automobiles étaient principalement sur Paris, mais finalement les sorties hors de la capitale étaient assez limitées à cause de l'octroi qui existait encore au début du siècle dernier.
Jusqu'en 1943, et sa péremption du fait de la guerre, effectivement, a été une manière de démocratiser l'accès à la capitale. Et ceci aussi, malgré les temps de l'occupation, sous la pression automobile. Mais au passage, permettez-moi de relever le choix musical qui est récurrent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légèreté derrière le phénomène automobile. Il y a beaucoup de gaieté derrière ce phénomène automobile. C'est une des raisons de cette convivialité séculaire qui, finalement, a acquis à sa cause, pour l'automobile, de nouveaux publics. Et il y a là un facteur englobant derrière ce qui peut être, effectivement, on l'a rappelé, un choc de mobilité au départ, mais qui devient quelque chose de domestiqué, d'accepté et de convivial.
Je t'attendrai à la porte du garage. Et tu viendras dans ta super moto.
Déçu de ne pas l'entendre aujourd'hui.
Mais non, c'était trop évident. On allait choisir des titres plus originaux comme celui d'Henri Corr dont on vient de parler. Emmanuel Pia, sur à la fois cette révolution automobile et puis sur aussi ces nouveaux usages. Et en particulier, on entendait qu'une charrette de foin peut arrêter l'automobiliste. On ne sait pas comment doubler. Il y a aussi des nouvelles pratiques qui sont liées à cette rapidité de l'automobile par rapport aux autres modes de locomotion sur une route, doubler, l'endroit où on peut doubler, il va falloir le signaliser, il va falloir dire là vous pouvez doubler, là c'est trop dangereux. Tout cela, ce sont des choses qui vont se mettre en place progressivement.
Absolument. Et il y a différents paramètres à prendre en compte. Il y a effectivement toute la signalétique qui apparaît sur le territoire national et au-delà. Vous avez parlé de la notion de vitesse. Il faut savoir que la vitesse et notamment que la compétition automobile a joué un rôle particulier et également un rôle de laboratoire à ciel ouvert. À titre d'exemple, nous assistons à une mutation au début de l'automobile, à une mutation entre des courses que l'on appelait des courses de ville à ville, notamment les fameuses Paris-Berlin, Paris-Vienne des années 1901-1902, où il y a eu un écueil particulier en 1903. Vous avez un accident très important, une série d'accidents dans le cadre de l'épreuve Paris-Madrid qui a heurté les sensibilités et qui a incité justement à la création non plus de circuits sur route ouverte, mais de circuits fermés. Et là, l'Automobile Club de France a joué un rôle important en créant le premier Grand Prix sur circuit fermé, le Grand Prix de la CF, qui a perduré jusque dans les années 60. Donc vraiment...
Et d'ailleurs, c'est une automobile qui crée un Automobile Club qui crée les 24 heures du Mans, par exemple, sur ce circuit du Mans.
Absolument. Mais disons que chaque région avait souhaité organiser son propre Grand Prix de la CF. Donc initialement, c'est vraiment une structure, une organisation indépendante de l'Automobile Club de l'Ouest aujourd'hui. Mais il y a une filiation entre les Automobile Clubs. Il y a des spécificités propres à chaque institution, avec des statuts propres, avec des missions propres. Et pour revenir justement à ces régionalismes, vous aviez l'ACF qui a organisé, à titre d'exemple, qui avait une structure de fédération de ces automobiles clubs d'un point de vue sportif et qui validait justement chaque épreuve, que ce soit des épreuves sous forme de courses de côte, sous forme de records de vitesse, ou sous forme du fameux Grand Prix de l'ACF qui s'est déroulé à Dieppe, qui s'est déroulé à Lyon, qui s'est déroulé vraiment aux quatre aux quatre coins de notre beau pays.
Et ce qui est intéressant, Mathieu Flenot, c'est que ce départ aristocratique de ces premiers automobilistes à la fin du 19e siècle va se heurter progressivement à cette démocratisation. Vous parliez tout à l'heure du camion du laitier rentrer dans les mœurs, en particulier pour toutes les livraisons et tout un tas de facilités que peut offrir ce nouveau moyen de locomotion pour parcourir le pays, en l'occurrence. Mais c'est une démocratisation qui est relativement tardive, au bout du compte. La vraie démocratisation n'interviendra que dans la deuxième moitié du XXe siècle, non ?
Alors c'est là précisément qu'il faut distinguer deux choses. La démocratisation des usages, qui elle est immédiate, et avant la Première Guerre mondiale, la partie est gagnée pour tous les usages professionnels. Ce point est indiscutable, y compris dans le transport public. Le dernier autobus hippomobile, le dernier omnibus hippomobile circule en 1913 dans la capitale. Donc avant la Première Guerre mondiale, la démocratisation des usages a lieu. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que la démocratisation de la propriété individuelle du véhicule, elle, n'éclate véritablement qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et donc pendant cette période des Trente Glorieuses, sur laquelle j'ai publié mon dernier ouvrage, là, qui représente finalement une forme... Glorieuse, oui. Voilà, chez Loubatière, et le sous-titre en est « Un rêve d'automobilisme », particulièrement bien choisi par l'éditeur, parce que précisément, il s'agit de montrer comment ce que vous pointiez là, à savoir les courbes qui, finalement, à force de se développer, font que l'automobile en devient presque inutile dans certaines zones, et impertinent dans certaines zones, urbaines notamment, et donc entre en contradiction avec elle-même, eh bien ce fut un rêve, et ce fut un rêve réel, et là, sans anachronisme, sans archaïsme véritable... de la pensée, il faut se remobiliser au travers de ce qui a été un objet industriel produit en masse par des populations ouvrières impliquées et qui représentait eh bien une ascension sociale possible. Et donc là, c'est évidemment l'historien de la mobilité qui voit les deux problématiques converger, celle de la mobilité sociale et celle de la mobilité physique. Mmh. On est là devant eh bien une nouvelle société qui a été pleine d'espoir.
Christelle Le Polotech.
Oui, on voit quand même dans les récits de voyages qui pouvaient se faire à l'époque, les voyages des chauffeurs automobiles, qui témoignent quand même d'un antagonisme social flagrant envers les hôteliers, envers les autochtones en province.
Oui, mais ceci est en quelque sorte l'aiguillon qui va normaliser la chose. C'est-à-dire
alors, expliquez-nous ça. Oui. Expliquez ce que vous voulez
bien
dire.
C'est-à-dire qu'à force de critiques, on se met au niveau. Et à force de, effectivement, discussion, aujourd'hui, le guide Michelin n'est plus un guide social. On est là devant quelque chose qui est très largement répandu. Et donc, on n'est plus, finalement, dans cette logique d'opposition qui est, par une certaine historiographie, très largement surestimée.
Oui, vous voulez dire que cette critique, qui était quand même une critique très dure et sociale de ces élites qui possédaient l'automobile, a permis au tourisme en particulier de se professionnaliser. C'est ce que vous laissez entendre en
absolument.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, absolument.
Donc il vaut mieux être aiguillonné, comme vous le dites, que de ne pas l'être, ce que vous laissez entendre, Mathieu Flenot.
En effet.
Emmanuel Pia, quand on travaille sur cette histoire de l'automobile, on a du mal à sortir peut-être soit de la légende dorée, soit de la légende noire. Comment faire une histoire à partir des archives, par exemple, de l'Automobile Club, qui soit une histoire balancée, hein, comme ce que tente de faire Mathieu Flenot et ceux qui travaillent avec lui de son côté, une histoire balancée qui, d'une certaine façon, repousse et la légende noire et la légende dorée ? Parce que ça doit être difficile par rapport à vos mandants qui sont ceux qui font l'Automobile Club aujourd'hui, qui sont aussi dans une volonté de défendre l'automobile contre ceux qui l'attaquent, de pouvoir à la fois faire le travail d'historien, le travail d'histoire et critiquer aussi une certaine vision peut-être ancienne de l'Automobile Club.
Oui. Comme tout travail d'historien, l'essentiel est effectivement de prendre du recul par rapport aux sources et de les mettre en relation, de peser le pour et le contre. Ça, c'est un travail fondamental. Il y a une grande diversité par rapport à la perception de l'automobile à l'époque. Vous aviez par exemple Octave Mirbeau qui soulignait un conflit d'intérêts important. Le paysan n'a pas encore compris, il ne comprendra probablement jamais que les routes ont été construites pour qu'on y circule d'un point à un autre. Il s'imagine de bonne foi peut-être qu'elles ne sont pas faite pour lui et pour les différents besoins de son exploitation et les services de son élevage. Mais d'un autre exemple particulier, Bien entendu, Paul Adam évoque un engin diabolique, une trépidation formidable ébranle le paysage, la fureur haletante de cette nouvelle chimère éblouit, hurle, cahote, sonne et passe, emportant à la crête de son corps massif un carteron de silhouettes imprécises bavardes. L'automobile n'est qu'un bruit de Léviathan, qu'une sorte de tour mystérieuse et trapue, enfuie déjà dans le noir où la devance les deux rayons étincelants, tels les cornes divines de Moïse. Et d'un autre côté, vous aviez un certain Paul Adam, toujours à titre d'exemple, en 1907, qui vante l'automobile et à travers justement toutes ces spécificités entre les prestiges de l'automobile, le moindre n'est pas d'avoir joint au paysage qu'elle parcourt les joies de ses couleurs. Écarlate, bleu, beige, les véhicules à quatre vitesses volent et bourdonnent dans l'espace. C'est une parure neuve des campagnes. Etc, etc. Donc il y a vraiment une vision manichéenne de l'automobile et il faut prendre du recul bien évidemment sur des faits concrets.
Merci beaucoup Emmanuel Pierre. Je rappelle que vous êtes responsable histoire et patrimoine à l'Automobile Club de France. Merci à vous Mathieu Flonneau et à nos confrères de Radio France à Strasbourg qui vous ont accueilli à l'occasion du colloque où vous vous trouvez sur place. Vous êtes maître de conférence à Paris 1 et votre dernier livre s'intitule L'Automobile au temps des 30 Glorieuses aux éditions Loubatière. Il est paru l'année dernière. Merci à vous Christelle Le Polothèque de m'avoir accompagné pendant toute cette semaine sur l'histoire des routes. On peut réécouter ces émissions. Cette émission était préparée évidemment par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. En régie, à la technique, Anthony Thomasson, au droit d'auteur, Victor Buton, et à la réalisation, Anne Fleury.